Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Et oui, nous rentrons de voyage. Quel beau voyage. Merci Seigneur, c'est vraiment sa grâce qui l'a permis. Et c'est vraiment une joie d'être de retour parmi vous. Ce matin, je vous propose de prendre une lecture dans le livre de Daniel. Et on va prendre Daniel au chapitre 3. Et on va lire le verset 1. Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Babylone, c'est la forme grecque du nom d'une ville que l'on connaît depuis déjà bien longtemps dans la Genèse. Est-ce que vous avez une petite idée ? Je l'ai entendu. Exactement, c'est Babel. On découvre cette ville au chapitre 11 de la Genèse. Et Babel, c'est une ville qui a été fondée par un homme qui s'appelle Nimrod. Et comme souvent dans la Bible, eh bien, ce nom Nimrod, ça, c'est plein de sens. Nimrod, ça signifie rebelle. À cette époque, les habitants de Babel, ils ont commencé à construire une tour dans un but bien précis, c'était celui d'atteindre le ciel et de se faire un nom. Cette expression, se faire un nom, eh bien, elle signifie qu'ils recherchaient à être leur propre maître. Cette tour, en fait, est devenu vraiment le symbole de la rébellion contre Dieu. Et vous connaissez sûrement la suite de l'histoire. Dieu a mélangé leur langage de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres, qu'ils soient dans la confusion et qu'ils cessent la construction de cette tour de Babel. Babel ou Babylone, en fait, c'est le même mot. Et ça signifie d'ailleurs, Babel ou Babylone, ça signifie confusion, dans le sens d'une confusion par mélange. Et cet épisode avec Nebuchadnezzar, ça se passe des siècles après. Mais il s'inscrit toujours dans cette situation de rébellion. Et il construit cette tour, lui c'est une statue. Alors c'est plus petit. Vous voulez vous faire une idée un petit peu de ce que c'est cette taille ? 3 mètres. Alors j'ai pris un mètre. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à le dérouler ? Junior, merci. On va tirer jusqu'à atteindre 3 mètres. Va pas trop loin. Je pense que tu vas trop loin. Ah non. Vous voyez, regardez. 3 mètres. Hop, on y est presque. 3 mètres, c'est ça, de large. D'accord ? C'est pas mal déjà. Juste de largeur. Merci Junior. On peut le poser. Hop. Et puis pour la hauteur, on a vu que c'était 30 mètres. C'est combien 30 mètres ? Tu peux passer la diapo suivante. 30 mètres, c'est une tour de 10 étages pour nous. Donc, on regarde comme ça, en fait, la tour. On regarde comme ça, la statue. Elle est immense. Elle est très grande, oui. Et ça fait vraiment écho à cette rébellion passée. Cette statue, elle vient symboliser vraiment cette rébellion contre Dieu. Et on a vu, dans le premier verset que nous avons lu au début, que c'est une statue en or. Mais pourquoi en or ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Parce qu'il y avait plein de matières disponibles. Hein. Pourquoi de l'or ? Alors, il y a le côté précieux, c'est vrai, mais il y a une autre explication. Au chapitre précédent, chapitre 2 du livre de Daniel, Nebuchadnezzar il a fait le rêve d'une statue dont la tête était en or. Et le prophète Daniel lui a révélé ceci. Au verset 37, il lui a dit « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » On peut donc assez facilement penser qu'avec de tels éloges, Nebuchadnezzar a pris l'orgueil quand même, pas mal. Et il a voulu dresser ce monument pour que tout le monde soit bien informé que cette révélation, eh bien, c'était lui le maître. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'empire le plus présent et le plus puissant. Mais l'orgueil de Nebuchadnezzar ne s'est pas arrêté là. Parce que ça l'a poussé même à faire donner l'ordre à tout le monde de se prosterner et d'adorer la statue. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord, tous ceux qui ne voudraient pas se prosterner et adorer la statue, il y a une sanction qui est claire. On peut la lire dans Daniel au chapitre 3, verset 6. « Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pas évident comme sanction. Pourtant, est-ce que tout le monde a suivi cet ordre ? Non, effectivement. Et voici ce que l'on peut lire au verset 8. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Waouh ! Les accusations. Mais ça nous permet de comprendre que tout le monde ne s'est pas prosterné pour adorer la statue. Trois hommes ont refusé. Ces trois hommes, ils ont été nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Mais qui sont-ils ? J'ai entendu un bout, les amis de Daniel. Alors oui, en fait, ce sont des Judéens. Et ils ont fait partie de la toute première déportation du royaume de Juda par l'Empire babylonien. On est, pour vous situer au niveau de l'histoire, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce sont les amis de Daniel. Et à la fin du chapitre 2, le chapitre précédent, on apprend qu'ils ont même été promus, ils sont devenus administrateurs de la province de Babylone. Ce qui fait d'eux, en fait, certains des plus hauts fonctionnaires de tout l'Empire. Et nous allons voir que ces trois hommes, en fait, ils ont été témoins de tout ce qui se préparait. Puis on verra ensuite quelle attitude ils ont eue face à ces accusations et qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire après avoir refusé d'adorer la statue. On va le voir ensemble et commençons par cette partie sur les témoins. Mike, on est diapo 26. Donc d'abord, ils sont témoins depuis un certain temps de la construction de la statue. Et oui, une statue monumentale comme on l'a vu, ça ne s'est pas fait en une seule journée. Malheureusement, malgré leur haute fonction, ils n'ont pas pu faire obstacle à cette construction. Et de la même manière, nous pouvons nous aussi être témoins de constructions qui sont des actes de rébellion contre Dieu. Ce n'est pas forcément des constructions architecturales. On ne va pas forcément voir en 2024 des statues être érigées. Mais il y a d'autres choses qui se construisent. Il peut y avoir des constructions législatives. Certaines lois sont clairement en contradiction avec la parole de Dieu aujourd'hui, que ce soit dans notre pays ou dans le monde. Ça peut être aussi des constructions culturelles, au travers des médias, pour ne parler que de cet exemple-là. On voit de nombreux artistes qui s'opposent vraiment à Dieu au travers de films, de dessins animés, de musique, de livres, tout ce qui fait la culture. Ça peut même être des constructions morales. Il faut bien avouer que la morale de notre société est de plus en plus en contradiction avec la Bible. On constate de plus en plus que des choses que la Bible appelle bien, notre société l'appelle mal. Et des choses que la Bible appelle mal, notre société l'appelle bien. Notre seule arme, bien souvent, c'est la prière. Et nous savons que Dieu agit. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que dans les temps de la fin, il y aura de plus en plus de contrastes entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui marchent avec l'ennemi. Et ce contraste va se faire de plus en plus visible. Dans le dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse, la situation est très claire. Voici ce qui est écrit. On est dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Et le texte continue. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, on ne peut pas forcément empêcher ces constructions d'avoir lieu dans notre monde. Mais nous sommes appelés à persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et la construction de cette statue, elle a été terminée. Et ensuite, tout va très vite. Nebuchadnezzar leur a donné un rendez-vous. Un rendez-vous pour un événement qui s'appelle la dédicace. C'est ce qu'on peut lire dans Daniel au chapitre 3, verset 2. Et une dédicace, eh bien, une dédicace, c'est une inauguration solennelle faite par un magistrat d'un édifice public, une statue, etc., dédiée à une divinité, à un héros, et entraînant le rappel annuel de cette inauguration. Ça, c'est la définition dans le dictionnaire. C'est donc un rendez-vous clairement idolâtre, qui en plus est amené à se répéter. Et ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'être présents à cet événement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et la façon dont doit se dérouler la cérémonie va mettre en évidence tous les opposants. Et on l'a lu. Ceux qui s'opposeraient vont être tués. Et parfois, on peut être dans des situations comparables. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. On se trouve dans un lieu, dans une situation où tout s'oppose à Dieu. Mais on n'a pas le choix. On est obligé d'être là. On ne pouvait pas faire autrement. C'est très dur comme situation. C'est très dangereux aussi. Si on suit le mouvement, nous nous faisons ennemis de Dieu. Si on s'oppose au pouvoir établi, les conséquences peuvent être fatales, en tout cas dans le cadre de Shadrach, Meshach et Abednego. Si on avait été à leur place, quel choix est-ce qu'on aurait fait? Comment on se serait comporté? Est-ce qu'on aurait collaboré pour protéger notre vie? Est-ce qu'on aurait refusé d'adorer la statue, même s'il fallait mourir à cause de ça? C'est de vraies questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, pour préserver des relations, préserver un emploi, préserver un certain confort matériel ou social, nombreux sont ceux qui acceptent de collaborer et de mourir spirituellement. Et bien souvent, ces personnes ne se rendent même plus compte de la situation de compromis dans laquelle elles sont tombées. Mais pour ceux qui désirent marcher en conformité avec la parole de Dieu, la Bible nous donne un encouragement. Lisons-le ensemble. On est dans Colossiens, chapitre 1, verset 11. Voici ce que la parole dit. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Amen. On apprend à Nebuchadnezzar qu'il y a là trois rebelles qui ne sont pas d'accord et qui refusent d'adorer la statue. Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que vous vous rappelez comment il réagit, ce roi babylonien? Il n'est pas très content. On va le lire. On revient dans Daniel au chapitre 3 et on est au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donc pas content du tout, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Ouh. Je pense qu'il était encore bien plus méchant que ce que j'ai pu faire là. Il a dû crier très très fort. Et il leur lance cet ultimatum. On est au niveau de pression maximum. Alors quelle attitude ? Quelle attitude ces trois garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, vont-ils adopter ? Ils auraient pu céder. Ils auraient pu dire « Ah oui, tu as raison, c'était une erreur, désolé, on va le faire. » Ils auraient pu faire comme Naaman aussi. Lorsqu'il a dit au prophète Élisée, dans 2 Rois au chapitre 5, verset 17, « Je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple, il parle du roi qu'il servait, du temple de Rimmon pour s'y prosterner. Il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit « Pars dans la paix. » Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos intentions. Et Naaman, il débutait tout juste dans sa marche avec Dieu, il venait juste d'être guéri de sa lèpre. Il découvre à peine qui est ce Dieu. Et oui, sa vie n'est pas encore complètement en règle. Il y a des choses qui, de par sa fonction, l'obligent finalement à se retrouver dans des situations qu'il sait mauvaises devant Dieu. Et Dieu ne l'a pas accablé davantage. Mais cette situation peut-elle vraiment durer? Parfois, il faut du temps pour prendre certaines décisions. Et Dieu a laissé ce temps à Naaman. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, bien, eux, ils ont pris une décision tout à fait différente, plus radicale, plus tranchée. On revient dans Daniel au chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ils ont fait le choix de refuser tout compromis avec l'idolâtrie et d'honorer Dieu, sachant que Dieu est souverain et qu'il est tout à fait capable de les délivrer du pouvoir de Nebuchadnezzar. Mais en même temps, ils sont aussi tout à fait conscients que peut-être que le plan de Dieu pour eux, eh bien, ça pourrait être aussi qu'ils meurent dans la fournaise. C'est dur comme pensée. Mais c'est ce qu'ils expriment. Ils sont prêts à cela aussi. Ils choisissent d'honorer Dieu quelles que soient les conséquences de leurs décisions. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreux martyrs qui sont morts pour leur foi. Et aujourd'hui encore, des chrétiens meurent dans le monde à cause de leur foi. Les épreuves, c'est toujours difficile. Il n'y a pas d'épreuve facile, sinon on n'appelle pas ça une épreuve. Mais l'encouragement que la Bible nous donne, c'est que l'épreuve du chrétien, elle permet son édification. Certains construisent des bâtiments de pierre. Nebuchadnezzar a construit une statue. Mais Dieu, lui, il construit son temple en nous. Et cette construction en nous, elle est éternelle. Jacques nous encourage dans ce sens, dans Jacques au chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose que l'on ne peut pas réaliser si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Les épreuves sont une joie pour nous. Mais Jacques continue. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Nous savons que notre monde va se corrompre encore plus. C'est ce que la Bible nous révèle. La persécution des croyants augmente. La persécution des chrétiens gagne du terrain. Elle apparaît même dans des pays où il n'y en avait pas jusque-là. Si ce type d'épreuve nous atteint, soyons encouragés à persévérer dans la marche avec Dieu, à ne pas faire de compromis. À l'exemple de ces trois garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, recherchons ce qui a une valeur céleste et éternelle, plutôt que ce qui a une valeur terrestre et éphémère. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 19. Il dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. On peut faire une autre remarque sur ce passage. C'est que on parle toujours de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont trois, ils sont ensemble. Et ils ont pris la même décision. La Bible ne nous dit pas, alors Shadrach, lui, il était d'accord, et puis les deux autres, pas trop. Non, ils font bloc, ils sont ensemble. Est-ce que le fait d'être ensemble, ça les a aidés à prendre la bonne décision? Qu'est-ce que vous en pensez? La Bible ne tranche pas, la Bible n'évoque pas spécialement cette partie-là dans ce passage. Mais ce n'est pas pour rien que Jésus a établi l'Église. Dans Romains, au chapitre 12, verset 5, on peut lire que « Alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Nous sommes ensemble. Et on est bien plus que trois. Nous pouvons ainsi nous soutenir les uns les autres, à prendre des décisions qui glorifient Dieu. Amen. Soyons donc vigilants aussi à nos fréquentations. Ces fréquentations peuvent être un soutien, mais parfois, on a aussi des fréquentations dans le monde qui peuvent nous faire chuter au contraire. Dans les Proverbes, on trouve ce verset, vous le connaissez certainement par cœur, au chapitre 27, verset 17. « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » On peut s'aiguiser à honorer Dieu. Mais on peut aussi s'aiguiser à la rébellion contre Dieu. Alors attention à nos fréquentations, attention à qui on s'associe. Le psaume 1 nous donne une recommandation précieuse dans ce sens. C'est le premier verset du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. Revenons à Nebuchadnezzar. Lui, eh bien, il ne connaît pas Dieu. Alors pas du tout. Et il est poussé par cet orgueil, ce même orgueil qui l'a conduit à construire cette statue. Et il réagit très très mal. Vraiment très très mal, devant la prise de décision, la prise de position de Shadrach, Meshach et Abednego. On est dans Daniel au chapitre 3, verset 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère, encore plus. Il changea de visage. C'est dire à quel point il était en colère vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Là, on a l'impression que c'est la fin de l'histoire. L'ennemi est rempli de fureur lorsqu'il rencontre de l'opposition, parce que lui-même s'oppose à Dieu et à ceux qui marchent avec lui. L'apôtre Pierre nous rappelle ceci, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je vous propose de conclure en ayant en tête cette dernière pensée dans le verset 10 de 1 Pierre, verset 5, celui que nous venons de lire, celui qui dit « Après avoir souffert un peu de temps, comme Shadrach, Meshach et Abednego, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Que deviennent Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Vous l'avez lu en fait. Ils ne sont pas morts dans la fournaise. C'est vrai. Mais ça paraît incroyable dit comme ça. Parce que les hommes qui les avaient jetés, eux, ils ont été brûlés sur place. Ils ne sont même pas rentrés dans la fournaise. Ils sont morts immédiatement. Alors que ces 3 hommes, eux, ils ont été jetés au milieu. Et voici ce que l'on peut lire dans Daniel au chapitre 3, toujours, verset 24. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers : N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ? Ils répondirent au roi : Certainement, roi. Il reprit : Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit : Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, écoutez la confession qu'il fait. Serviteur du Dieu Très-Haut. Sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Waouh ! Shadrach, Meshach et Abednego sortent indemnes de cette épreuve, par la grâce de Dieu, et seulement par la grâce de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée au travers d'eux par cette délivrance, on peut le dire, miraculeuse. Et parfois, nous aussi, nous pouvons vivre des délivrances miraculeuses. Je pense que ici, nombreux sont ceux qui peuvent le dire. Oui, nous avons eu des délivrances miraculeuses dans nos vies, à bien des égards. Mais parfois la délivrance ne vient pas. Mais ce que l'on peut garder en tête, c'est que même l'épreuve la plus intense a une fin. L'ennemi peut tuer notre corps, mais pas notre âme. Et nous avons une promesse de la part de Dieu. À la fin de la Bible, attention, on va faire un spoiler. Dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 3, voici la révélation que nous avons. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait : Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta : Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit : Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur, c'est-à-dire celui qui persévérera, recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. Amen. Frères et sœurs, soyons vivement, vivement encouragés à persévérer. C'est vraiment ce terme qui revient. Cette nécessité de persévérer, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Il y a un dernier encouragement que l'on peut retenir, c'est qu'il est même possible que face au témoignage de notre fidélité à Dieu, ceux qui ont été nos persécuteurs, eh bien, peuvent se mettre à louer et adorer Dieu à leur tour. Vous le croyez ? C'est ce qui arrive à Nebuchadnezzar. Au chapitre 3, verset 28, toujours dans Daniel, voici ce qui est écrit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Amen. Oui, Seigneur Jésus, je veux te remercier, Seigneur, pour cet encouragement à persévérer, Seigneur, dans la marche avec toi. Seigneur, nous sommes bien incapables, nous sommes bien faibles, Seigneur, mais par ton esprit que tu fais habiter en nous, par le temple que tu édifies en nous, Seigneur, le temple de ton esprit, nous savons, Seigneur, que tout cela, tu le rends possible. Seigneur, merci pour les délivrances que tu as déjà apportées. Merci Seigneur pour les promesses que tu donnes, Seigneur, pour l'éternité. Merci mon Dieu pour les cœurs durs comme celui de ce roi babylonien que tu viens faire fléchir, Seigneur, en ta faveur. Oui Seigneur, nous voulons nous placer devant toi pour te remercier pour ta grâce. Te remercier Seigneur pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour l'Église, merci pour les frères et sœurs. Merci Seigneur pour le soutien que tu apportes au travers Seigneur de l'Église, au travers de cette famille que tu as constituée Seigneur, ta famille. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour cet encouragement. Aide-nous Seigneur à nous en rappeler. Aide-nous Seigneur à retenir cet exemple de Shadrach, Meshach et Abednego pour persévérer. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci, mon Dieu, parce que tu te révèles dans ces moments. Merci, mon Dieu, parce que tu agis. Nous avons vu ta main, Seigneur, dans cette histoire et nous savons que nous la verrons dans nos vies, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Amen. Amen.